Et donc, ben, on va laisser un petit peu l'informatique pour quelques temps, hein, après avoir vu successivement Intel et Apple, voilà. Et on va évoquer une entreprise ben, qu'on avait présentée dans l'introduction, mais que sinon on n'avait pas, on n'avait pas encore revue. Et donc, on va s'intéresser à Renault. Mais avant de parler de Renault, on va faire une parenthèse théorique. Vous allez voir pourquoi, quel est le lien entre les deux par la suite, sur bah la recherche et développement. Donc, on va d'abord définir un petit peu ce que c'est, voir à quoi ça sert, et après voir rapidement comment ça s'organise et quelles sont les grandes tendances, on va dire, assez récentes. Donc, d'abord, sur l'activité des départements de R&D, bah, vous le savez, R&D, ça veut dire recherche et développement. Donc, bah, la première chose, ça va être de définir ce que c'est que la recherche et le développement. Et c'est là où on a peut-être une première petite surprise. C'est que dans la grande majorité des entreprises qui font de la R&D, en fait, elles ne font que du D. Mais voyons un petit peu de plus près ce qu'il en est. Donc, dans la recherche, on distingue en général recherche fondamentale et recherche appliquée. Donc la recherche fondamentale, elle a pour but de faire avancer les connaissances, hein, mieux connaître le monde, le fonctionnement, que ce soit sur le plan naturel, on va dire, hein, avec la physique, la chimie, la biologie, etc., ou que ce soit au niveau social. Mais en tout cas, le but, c'est de faire avancer la connaissance scientifique. Si ça aboutit à des innovations, bah, ok, c'est très bien, mais c'est pas, voilà, on ne mène pas les recherches d'activité fondamentale pour aboutir directement à des innovations. Alors du coup, bah, ça ne vous étonnera pas que si je vous dis que, eh bien, dans les entreprises, on en fait très peu. Puisque bah, faire avancer la connaissance scientifique sans objectif d'innovation particulier, on voit qu'on est assez loin du fonctionnement d'une entreprise. Alors, il y a quelques très grandes entreprises qui ont mis en place des équipes de recherche fondamentale parce qu'elles se disent que ça peut leur permettre d'être vraiment à la pointe de la connaissance et donc d'aller capter des connaissances qu'elles pourront mettre en œuvre plus rapidement que d'autres dans des innovations. En règle générale, bah, la recherche fondamentale, elle se déroule du coup plutôt dans des institutions spécialisées, hein, et essentiellement les universités dans le monde, plus les organismes de recherche, de publics de recherche, alors, qui sont très importants en France, qui sont en général, qui existent aussi, hein, dans d'autres pays, comme la NASA par exemple, mais qui sont proportionnellement moins importants dans d'autres pays. Donc c'est surtout là qu'on va trouver la recherche fondamentale. Et donc les entreprises qui souhaitent se connecter à la recherche fondamentale, en général, elles se connectent à ces institutions. Et donc ça, c'est quasi indispensable dans ce qu'on appelle les industries basées sur la science, hein. Bon, l'exemple typique que l'on prend en général, c'est la pharmacie, hein. Mais c'est vrai aussi de pas mal de types de chimie, c'est vrai aussi des nanotechnologies, c'est vrai, enfin il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels il est quasi indispensable d'être connecté au monde académique. Là encore, je lisais un autre article dans sur le fait que des salariés ou ex-salariés de Google avait reçu le prix Nobel. Donc ça illustre assez ça, c'est des personnes qui, pour la plupart, sont à cheval entre le monde académique et des entreprises comme Google. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote à ce propos-là. Alors, un exemple. Alors, vous allez peut-être vous dire, il choisit bizarrement ses exemples. J'aurais peut-être pu trouver un truc qui parle plus à tout le monde. mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pris celui-là par la suite. Donc, par exemple, je mène des recherches dont le but est de comprendre les propriétés du spin des électrons. Ensuite, y a un autre type de recherche qu'on appelle recherche appliquée. Donc cette fois, on cherche des solutions, hein, à des problèmes, scientifiques, voire technologiques. Alors, c'est plus fréquent que la recherche fondamentale dans les entreprises, hein, mais ça reste quand même assez concentré dans les grandes entreprises. Par exemple, des travaux qui permettraient de maîtriser l'orientation du spin des électrons pour permettre la lecture d'informations sur support magnétique. Donc là, ça, ce serait de la recherche appliquée. Je vais vous montrer la vidéo après, mais je vais d'abord parler du développement. Donc là, cette fois, c'est développement de procédés, le développement de produits, c'est celui auquel on pense en premier, et puis évidemment, le développement de composants qui vont ensuite entrer dans les produits. Donc là, cette fois, hein, le but, c'est d'arriver à un produit, un service, un... Donc, par exemple, le développement d'un disque dur miniaturisé basé sur la spintronique. Alors, du coup, alors désolé, ça retombe sur un exemple informatique, mais alors là, c'est pas pour rester dans le domaine, c'est parce que j'avais trouvé une petite vidéo sympathique, qui, je trouve, explique bien, du coup, ce passage du fondamental à l'appliquer jusqu'à arriver à un produit. Donc c'est pas une vidéo sur les brosses à cheveux, hein. Ça c'est l'inconvénient de YouTube. Mais donc le alors la seule chose c'est qu'évidemment c'est une vidéo qui est conçue pour les lycéens. Pour leur expliquer les questions de spin des électrons. Et donc, du coup, évidemment, dans la vidéo, il y a une grosse partie sur la recherche fondamentale et des parties plus courtes sur la recherche appliquée et les produits sur lesquels ça débouche. Donc, évidemment, si j'avais conçu la vidéo pour un cours de management d'innovation, j'aurais pas mis les mêmes proportions, mais je la trouve quand même sympathique pour comprendre les liens entre tout ça. Et du coup, vous verrez que l'anecdote que je vous raconterai, elle est en lien avec ça. Bon, alors, si jamais vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas la vidéo, là, j'ai bien mis dupliquer, j'ai essayé de faire en sorte que normalement c'est censé fonctionner dans ces cas-là, mais surtout, vous me le dites, hein. Des fois, on a des mauvaises surprises, toujours un petit peu, comment dire, il y a toujours un petit côté suspense lorsqu'on lance des vidéos à distance comme ça. Donc, vous me faites signe, hein, si jamais il y a un problème quelconque.
De toute évidence, les oiseaux
Ah, vous ne
migrateurs ne
voyez
perdent
pas.
jamais le
Alors,
nord.
c'est le cas de tout le monde?
Oui, j'ai l'impression.
Alors, pourtant, je suis bien en dupliqué. Parce qu'en général, c'est parce que il l'envoie sur un autre écran. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais faire étendre. Et du coup, je vais partager l'autre écran. Mais ça, malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Alors, partager. Fenêtre d'application. Est-ce que là, vous voyez?
Oui.
Ah, déjà, c'est mieux. Après, vous allez me dire si vous entendez.
On entend, oui.
Bon, bah parfait.
On s'est toujours demandé quel était le secret de leur remarquable sens de l'orientation. Il semble qu'il s'agisse d'un repérage du champ magnétique terrestre grâce à un mécanisme subtil qui fait appel à la chimie et à la mécanique quantique, et en particulier au spin des électrons. Spin suggère quelque chose qui tourne sur lui-même. L'électron se comporterait-il comme cette toupie que regardent Pauli et Bohr? Pour le savoir, il nous faut revenir en 1913. Cette année-là, le modèle atomique de Bohr décrivait correctement l'atome d'hydrogène. L'électron tournait sur des orbites circulaires correspondant à des niveaux d'énergie autorisés. En désignant ces orbites par des entiers positifs, 1, 2, 3, etc., Niels Bohr introduisait le premier nombre quantique de la physique moderne. Comme son modèle peinait à décrire des atomes à plusieurs électrons, le physicien allemand Arnold Sommerfeld l'améliora en 1916 en donnant aux électrons 2 degrés de liberté supplémentaires, pouvoir tourner sur des orbites elliptiques comme les planètes du système solaire et modifier sa trajectoire en présence d'un champ magnétique. Sommerfeld ajoutait ainsi deux nombres, L, le nombre quantique orbital, et M, le nombre quantique magnétique. Magnétique car l'électron se comporte comme un petit circuit électrique sensible au champ magnétique extérieur. C'est l'effet Zeeman, du nom du physicien hollandais qu'il avait découvert 20 ans plus tôt en étudiant le spectre du sodium. En approchant un aimant de la lampe, la raie jaune caractéristique du sodium se subdivise, preuve que l'électron subit une force électromagnétique qui modifie ses niveaux d'énergie. En 1916, l'électron vit donc avec trois nombres quantiques. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est performant, mais pas irréprochable, car il ne rend pas compte de deux phénomènes qui sont autant d'énigmes pour la communauté scientifique. Le premier phénomène nous ramène à la spectroscopie du sodium. Quand le champ magnétique s'intensifie, la raie du sodium se subdivise encore. C'est l'effet Zeeman anormal ou anomale, comme disent les spécialistes, car il leur est impossible d'attribuer ce résultat au mouvement orbital de l'électron. Le physicien autrichien Wolfgang Pauli pense alors que l'électron possède une propriété cachée, peut-être dissimulée dans un quatrième nombre quantique. Le deuxième phénomène a été observé en 1922 par les physiciens allemands Otto Stern et Walther Gerlach. Ils font passer un faisceau d'atomes d'argent à travers un champ magnétique, puis le projettent sur un écran. Alors qu'ils s'attendent à ne voir qu'une seule tache, ils remarquent deux petites taches symétriques. Là encore, impossible d'attribuer ce résultat au mouvement orbital de l'électron. En 1925, les physiciens hollandais George Uhlenbeck et Samuel Goudsmit comprennent que le quatrième nombre quantique existe et l'assimile à une rotation de l'électron sur lui-même. Tourner sur soi-même se dit to spin en anglais. Le quatrième nombre quantique est nommé. L'électron est analogue à un petit aimant. Son spin est responsable du dédoublement des niveaux d'énergie dans l'effet Zeeman anormal. Et l'expérience de Stern et Gerlach montre qu'il ne peut prendre que deux valeurs, plus un demi et moins un demi, comme si l'électron avait un pôle nord et un pôle sud. Cette vision classique d'une rotation propre de l'électron s'avérera finalement erronée, mais Qu'importe, le spin existe bel et bien, c'est une propriété intrinsèque de l'électron, comme sa masse ou sa charge, et l'image de la toupie a l'avantage d'être compréhensible. Les années 1925-1926 marquent l'avènement de la physique moderne, qui traite l'atome de manière totalement quantique. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est abandonné, les orbites sont remplacées par des orbitales, sortes de nuages électroniques, solution de l'équation de Schrödinger. Les électrons n'ont plus de position ni de trajectoire précise, mais juste une probabilité de présence. Fait remarquable, les trois nombres quantiques de Bohr-Sommerfeld subsistent dans l'équation de Schrödinger. N se rattache à la dimension de l'orbital, L à la forme et M à l'orientation spatiale. Mais point de spin dans l'équation de Schrödinger. C'est le physicien et mathématicien anglais Paul Dirac qui l'intègre en 1928 en transformant l'équation. À partir des années 1930, pratiquement toutes les propriétés magnétiques de la matière seront expliquées par le mouvement orbital de l'électron et par son spin. Mais c'est à la frontière du magnétisme et de l'électronique que nous allons nous rendre. Un nouveau domaine s'y est développé dans les années 1980, celui de la spintronique. La spintronique est un type d'électronique qui exploite le spin de l'électron en plus de sa charge électrique, comme dans l'électronique traditionnelle. L'application la plus connue est l'effet de magnétorésistance géante, ou GMR, qui permet, entre autres, le stockage numérique sur des disques durs de plus en plus miniaturisés. Déjà à la fin des années 1930, le physicien anglais Sir Neville Mott avait constaté l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans les métaux aimantés, comme le fer, le nickel ou le cobalt. Une simple impureté pouvait freiner très différemment la conduction des électrons de spin-up et de spin-down. L'étude des courants de spin se développe vers 1970 grâce notamment aux physiciens Ian Campbell et Albert Fehr au laboratoire d'Orsay en France. Le concept de magnétorésistance géante arrive plus tard, en 1988, lorsqu'une nouvelle technique, l'épitaxie par jet moléculaire, permet de fabriquer des empilements de couches extrêmement minces de métaux différents. La GMR a été découverte sur des multicouches de fer et de chrome. En empilant en alternance trois couches d'atomes de fer puis trois couches d'atomes de chrome, Albert Fehr constate que l'aimantation des couches de fer s'oriente naturellement en sens opposé, dans une configuration dite antiparallèle. Sans champ magnétique, l'une des couches arrête les électrons de spin-down, tandis que l'autre arrête les électrons de spin-up. Le courant ne passe pas, ou presque pas, la résistance électrique de la multicouche est très forte. En revanche, si l'on applique un champ magnétique, les aimantations des deux couches de fer s'alignent dans la direction du champ. Tous les électrons dont le spin est dans cette direction traversent sans problème les deux couches, et le courant passe. Sous l'influence d'un champ magnétique, même faible, la résistance électrique de la multicouche chute fortement, de l'ordre de 80%. C'est pourquoi on appelle ce phénomène magnétorésistance géante. Forte résistance, pas de résistance, 0, 1. Ce petit champ sera, par exemple, celui généré par les inscriptions magnétiques sur le disque dur d'un ordinateur. Le spin est une propriété purement quantique de l'électron et, De ce fait, il ouvre des perspectives insoupçonnées dans la conception de nouveaux systèmes électroniques. Une pierre de plus sur le chemin de la révolution scientifique en cours.
Alors, je vais essayer de remettre le bon. Et tac. Peut-être remettre en duplicité. Voilà, normalement, la diapositive est revenue. Alors, du coup, j'aime bien cet exemple-là, même s'il n'est pas conçu pour un cours de management d'innovation. Bon, d'abord, je trouve qu'il est très pédagogique, puisque moi qui n'avais pas fait de sciences dures depuis très très longtemps, je pense avoir compris l'essentiel. Alors, je ne saurais pas vous ressortir l'équation de Schrödinger, hein, mais Et puis, bah, il y a vraiment, hein, ce côté où au début, on est dans de la recherche purement fondamentale. On voit bien qu'ils cherchent juste à comprendre. Après, bah, on voit que notamment Albert Fert, lui, il est un peu entre la recherche fondamentale et appliquée. C'est-à-dire qu'il veut continuer à comprendre, mais pour ça, il conçoit des systèmes qui arrêtent ou pas les électrons quand ils sont dans un certain sens, etc. Donc on voit qu'il commence à maîtriser voilà, les phénomènes avec probablement déjà en tête quelques applications possibles. Et puis, bah, alors c'est là où j'arrive avec l'anecdote, puisque vous aurez remarqué, si vous étiez attentif, que du coup c'était à Orsay qu'ont été faites les découvertes sur la magnétorésistance géante. Et donc Albert Fert est un des prix Nobel de physique de l'université Paris-Saclay, venant de l'université Paris-Sud. Et donc à la fin de sa carrière, une fois qu'il a pris sa retraite d'enseignant-chercheur, enfin même en tant qu'enseignant-chercheur, il a monté un laboratoire commun avec Thalès. Alors comme Paris-Sud était visiblement pas très bon en négociation, ça a été considéré comme un laboratoire CNRS Thalès, alors qu'il y avait des enseignants-chercheurs de Paris-Sud, dont lui. Dedans, donc bon, bref. Donc pour l'anecdote, c'est que il y a quelques années maintenant, j'étais vice-président chargé des relations avec les entreprises, notamment sur le côté plutôt sur le côté formation, mais pas sur le côté valorisation de la recherche. Mais donc on allait rencontrer tous les grands acteurs du plateau de Saclay, hein, dont Thalès. Et donc, on avait rencontré toute une équipe de cadres supérieurs et dirigeants de Thalès sur place. Et alors, dans leur présentation, ils avaient indiqué qu'ils avaient un prix Nobel, Albert Fert, voilà. Ce sur quoi la présidente de l'époque, notre ministre d'il n'y a pas si longtemps, a quand même répliqué que oui, enfin bon, Albert Fert, c'était un enseignant-chercheur de l'université Paris-Sud, et que voilà, elle n'a pas trop. Mais enfin, il y avait un côté un peu comique comment dire, de considérer que le prix Nobel était pour eux, alors que il avait été chez eux qu'en fin de carrière, après avoir fait cette découverte. Mais bref, ça montre aussi ce chemin, hein, puisque le laboratoire en question fait de la recherche appliquée et probablement est en connexion avec les services de développement de Thalès, puisque Thalès, ils font pas ça pour juste mieux comprendre la façon dont fonctionnent les électrons, hein. Ils sont là pour développer des produits autour de la spintronique. Donc voilà, je trouve que ça montre bien les relations entre ces trois grands types d'activités. Alors, sachant que Bien évidemment, parfois, on est à la frontière entre les deux. Vous voyez, hein, je vous ai dit, Albert Fert, il est probablement à la frontière entre recherche appliquée et recherche fondamentale quand il commence. Et puis, à la fin de sa carrière, dans son laboratoire avec Thalès, il est probablement à la frontière entre recherche appliquée, enfin, il fait de la recherche appliquée, lui, mais le labo a probablement des liens très forts avec le développement. Donc, on voit qu'on n'est pas sur des frontières très nettes. Mais par contre, dans l'esprit, il y a quand même voilà, une philosophie un petit peu différente sur sur ces trois aspects. Alors, ça, c'est voilà, le but est juste de comprendre ce qu'est la recherche et ce qu'est le développement. Maintenant, si on regarde les choses de façon plus concrète, hein, en tant qu'entreprise, les objectifs de laboratoire de R&D, bah, vont du coup être eux-mêmes multiples, et on va voir qu'ils découlent en partie directement de ce qu'on vient de dire, mais pas seulement. Ça vaut le coup de distinguer ça. Alors, bon, la chose la plus visible, c'est le développement et l'industrialisation de nouveaux produits. Donc là, on retrouve le développement de procédés, de composants, de produits. Donc, encore une fois, très souvent dans les entreprises, hein, c'est un tout petit R, voire pas de R du tout, et un grand D. À titre indicatif, parce que j'avais eu les chiffres, enfin une partie des chiffres, chez PSA quand j'étais souvent en relation avec eux, ils avaient alors un petit groupe qui était proche de la recherche fondamentale, alors qui était plutôt à l'interface entre recherche fondamentale et appliquée, c'est-à-dire que eux, ils étaient justement l'interface entre la recherche fondamentale menée dans des organisations soit publiques, soit en grande partie financées par le public, hein, parce que même quand une université est privée, bah, une université comme Stanford, qui est privée par exemple, reçoit énormément de fonds publics, hein. Ils vont candidater à des projets, etc. Donc la recherche, elle est... la recherche fondamentale est toujours en grande partie financée par le public, puisqu'elle n'a pas forcément d'application immédiate. Et donc ce petit groupe, alors j'avais interrogé le directeur à l'époque de je sais plus comment il s'appelait. Alors il avait d'ailleurs dispersé sa petite équipe dans les campus de grandes universités ou grandes écoles européennes essentiellement. Je crois pas qu'il en ait mis aux États-Unis, mais en tout cas ça montre bien la proximité, hein, avec la recherche fondamentale. Quand je lui avais posé la question de combien ils étaient, il m'avait dit que c'était confidentiel. Après, en recoupant un peu les informations, parce qu'ils avaient parlé dans la presse de leur Stella Labs, c'est comme ça qu'ils les appelaient, etc. Donc, j'en avais déduit qu'ils étaient probablement autour de 30 ou 40. Après, il y avait une direction qui faisait de la recherche appliquée et peut-être du début de développement. Hein, donc, elle s'appelait, pardon, la direction de la recherche et de l'innovation avancée. Et donc, cette DRIA, elle comportait 400 personnes environ. Donc, vous voyez, on a déjà un volume 10, au moins 10 fois supérieur. Et puis, les bureaux d'études de PSA à l'époque, donc ceux qui faisaient du... Ah, ça incluait mais ceux que je viens d'évoquer, hein, mais qui faisait essentiellement du développement, eh bien, c'était 14 000 personnes. Donc, vous voyez, ça vous donne une petite idée dans une grande entreprise C'était même pas vraiment faire de la recherche fondamentale, mais être vraiment aux frontières de la recherche fondamentale, 30 à 40 personnes, faire, on va dire, de la recherche appliquée, 400 personnes, et faire du développement, bon, bah, du coup, 13 500. Donc, bah, de la même façon, développer et mettre en œuvre de nouveaux procédés de fabrication, hein, ça va avec, c'est toujours dans le développement. Alors, c'est là où, hop, on peut éventuellement se rapprocher, bah, du laboratoire commun entre Thales, le CNRS et l'Université Paris-Saclay, puisque maintenant, c'est quand même officiellement un laboratoire commun avec l'Université Paris-Saclay, ou bah, ce que je vous ai décrit chez Peugeot Citroën Automobile juste avant. Bah là, on est aussi dans cette idée de créer ou maîtriser, en tout cas plus vite que les autres, des nouvelles connaissances scientifiques pour avoir un petit temps d'avance. Vous voyez que si bah, vous êtes très proche du laboratoire d'Albert Fert au moment où il découvre la magnétorésistance géante, que vous interagissez directement avec lui, bah, vous verrez probablement avant d'autres le potentiel d'application de la spintronique, et du coup vous démarrerez vos programmes de recherche appliquée puis de développement a priori avant d'autres. Et donc ça peut vous procurer un avantage concurrentiel. Et puis, alors ça c'est un aspect qui ne transparaît pas forcément sur les descriptions de la recherche et du développement que j'ai faites sur la diapositive précédente. Des entreprises vont chercher aussi à rester à la pointe dans différents domaines scientifiques, y compris quand elles ne font pas elles-mêmes. Alors là, ça pourrait paraître un petit peu plus curieux, hein. Donc si je reste dans l'automobile, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont faire concevoir les systèmes de freinage par exemple Valeo, et donc pourquoi il y a des spécialistes du freinage chez les constructeurs automobiles. Ben, en fait, l'idée, c'est que ben, pour bien discuter au plus haut niveau avec le fournisseur, il faut maîtriser ce qu'il vous dit, donc y compris sur le plan technologique. Et puis, il y a toujours ce côté pouvoir de négociation aussi, hein. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire vous-même, que vous déposez vous-même des brevets dans ce domaine, vous allez évidemment être plus en force face à votre fournisseur que si vous êtes incapable de toute façon de faire ce qu'il va vous proposer. Et puis, d'une manière plus globale, il y a deux chercheurs qui, dès 1990, alors vous verrez après pourquoi je dis dès 1990, avaient, enfin, même le terme capacité d'absorption vient vraiment en 1990, en tout cas dans le titre, mais dès 1989, en fait, ils notent que les activités de R&D peuvent aussi avoir pour but de se donner les moyens d'acquérir des connaissances à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vous-même une certaine base, vous serez incapable de tirer le meilleur parti de connaissances que vous pouvez aller chercher à l'extérieur. Et donc c'est ça qu'ils appellent capacité d'absorption, hein. C'est ils montrent que bah, dans les activités de R&D, on ne va jamais compter que sur les connaissances de la seule entreprise, hein. Elle va toujours en permanence s'alimenter de connaissances qui sont à l'extérieur, mais que pour pouvoir les utiliser au mieux, eh ben, elles ont besoin elles-mêmes, les entreprises, d'avoir un certain niveau d'expertise. Et que donc l'un des rôles de la R&D, ça va être de maintenir à niveau cette expertise. Alors évidemment, comme il y a des objectifs multiples, bah, ça rend d'autant plus difficile la mesure de la performance. Alors déjà, mesure des performances, c'est toujours assez complexe. Quand on est sur un domaine comme la R&D où il y a beaucoup d'incertitudes, bah, c'est encore plus complexe parce que peut-être qu'une équipe a parfaitement fait son travail, mais qu'ils prennent quand même 6 mois de retard pendant la mise au point d'un produit, hein. C'est peut-être pas parce qu'ils bossent mal. Mais alors en plus, il y a cette multiplicité d'objectifs. Donc du coup, bah, voici quelques exemples d'indicateurs fréquemment utilisés, mais d'abord, ils sont pas utilisés seuls, ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres, et puis ils sont tous assez délicats à manier, en fait, hein. Par exemple, si vous mettez plutôt l'accent sur le développement de nouveaux produits, eh bien, on va par exemple regarder le nombre de nouveaux produits développés chaque année. Alors là où tout seul l'indicateur est quand même très limité, c'est qu'à la limite, si les produits répondent mal aux besoins du marché, sont mal adaptés, bah, ils comptent quand même. Donc du coup, alors d'où le fait que beaucoup d'entreprises, alors ça c'est très fréquent, vont regarder beaucoup la proportion de leur chiffre d'affaires qui est réalisé avec des produits qui ont moins de 3 ans. Alors, moins de 3 ans, c'est assez classique, mais ça sera peut-être moins de 18 mois dans le domaine de l'électronique et moins de 10 ans dans le domaine de l'aéronautique. Hein. On est bien d'accord, c'est pas les 3 ans, c'est pas quelque chose qui... C'est courant. Je ne l'ai pas mis totalement au hasard quand même, mais évidemment, ce n'est pas forcément pertinent dans toutes les industries. Bon, là, ça a un peu le défaut inverse, c'est-à-dire que cette proportion va être certes d'autant plus forte qu'on lance de nouveaux produits, mais aussi que ces produits connaissent du succès par rapport aux anciens. Or, si par exemple vous avez un lancement qui est manqué pour des raisons marketing, eh bien, du coup, la proportion du chiffre d'affaires réalisé par des produits de moins de 3 ans sera plus faible, alors même que la R&D n'y est pour rien. Vous voyez? Donc, le succès d'un produit ne dépend pas seulement de l'activité de la R&D. Et alors, si on prend cet indicateur-là, du coup, on leur attribue un résultat qui en fait dépend de multiples facteurs, en partie externes à l'entreprise d'ailleurs, hein, mais même à l'intérieur de l'entreprise, il y a plusieurs départements qui vont intervenir dans le succès ou pas, enfin, qui vont avoir de l'influence sur ce ratio. Alors ça peut être le nombre de projets qui sont lancés, par exemple, si on se situe plus en amont, et typiquement dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, on va beaucoup s'intéresser au nombre de molécules qui sont en phase d'essai préclinique, en phase d'essai clinique de phase 1, en phase d'essai clinique de phase 2. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le pipeline, c'est les différentes, c'est le tunnel, en quelque sorte, par lesquels passe un projet d'innovation à travers différentes phases, comme on l'avait déjà vu. Ça peut être aussi le nombre de brevets déposés, hein, mais avec toutes les limites de l'indicateur, puisqu'on peut déposer un brevet sur une innovation absolument majeure. Comment on peut en déposer un sur une petite amélioration de l'existant. Pourtant, ils vont compter pareil. Alors, quand des chercheurs font des études a posteriori sur des brevets, souvent, ils vont utiliser d'autres facteurs. Par exemple, ils vont regarder le nombre de fois où un brevet a été cité dans d'autres brevets. Pensez que si on est un brevet fondamental qui a créé tout un pan, toute une série de produits, ben on va être beaucoup cité dans d'autres brevets, alors que ça ne va pas être le cas de ma micro-amélioration que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça, vous pouvez le faire que quand vous avez du recul, parce qu'il faut le temps que le brevet soit publié, c'est seulement 18 mois après le dépôt. Ensuite, ben il faut qu'il soit un peu connu, et ensuite seulement que les brevets qui le citent soient eux-mêmes publiés. Donc voilà, même si le lendemain de la publication, vous dites « Ah, ça c'est génial », et puis vous lancez dans une nouvelle invention et vous citez la première, néanmoins, ça sera visible que encore 18 mois après. Donc vous voyez que, évidemment, les entreprises ne veulent pas avoir des indicateurs qui mesurent leur performance d'il y a 5 ans. Donc du coup, bah, elles prennent le nombre de brevets déposés. Mais voilà, toujours en combinaison avec d'autres choses. Mais c'est vrai que ça a l'avantage d'inclure y compris la partie un peu plus amont de la recherche et développement, hein, même si ça n'aboutit pas tout de suite à des nouveaux produits ou de nouveaux procédés. Alors, quelques mots sur l'organisation. Je vais passer assez rapidement parce que, bon, a priori, ce sera probablement pas enfin, c'est pas le cœur, en tout cas, de l'orientation du diplôme. Je vais y arriver. Mais comme on avait évoqué le dilemme exploration-exploitation au tout début du cours, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment ça peut influencer, y compris l'organisation des activités de R&D. Si je mets donc sur une ligne en continu, d'un côté l'exploration et de l'autre l'exploitation, et puis qu'après bah, je coupe au milieu, mais sachant qu'évidemment tout est une question de dosage en réalité, hein, on n'a pas 60% à droite, 60% à gauche. Ben, si je fais de l'exploration, je vais avoir une orientation à long terme, ça forcément, et je vais souvent avoir plutôt une logique techno-push et chercher plutôt des innovations radicales. Si je suis plutôt orienté exploitation, je vais plutôt avoir une logique market pull, puisque je veux réaliser du chiffre d'affaires maintenant, et en moyenne plutôt incrémental. Attention, hein, faut pas oublier les plutôt. Ben, en termes d'organisation, si vous voulez être le plus efficace possible en termes d'exploration, bah vous allez plutôt avoir un grand laboratoire central où vous allez réunir le maximum de compétences scientifiques et technologiques, à l'image de ce fameux exemple du Xerox PARC, hein, où tant de choses ont été inventées qui ont fortement influencé par la suite le monde informatique, mais qui a très peu, qui est des innovations qui ont très peu rapporté à Xerox à la fin. À l'inverse, si vous voulez être proche de l'exploitation, bah, vous allez plutôt mettre vos laboratoires proches de vos unités de fabrication ou de vos clients, selon que vous voulez être proche de la résolution des problèmes de fabrication ou que vous voulez faire du développement produit. Et donc, ça conduit plutôt à avoir plusieurs unités plus petites de recherche et développement, plutôt que le grand laboratoire central. La localisation de votre ou de vos laboratoires va plutôt être faite en fonction de compétences scientifiques et technologiques, si vous avez une orientation exploration, plus proche des clients ou, je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu le rajouter aussi, de vos unités de fabrication, si vous avez une orientation plus exploitation. Donc, par exemple, si vous êtes plutôt orienté exploration, vous allez forcément aller à Saclay. C'est ce qu'a fait un peu EDF, hein, qui a mis un grand laboratoire central sur le plateau de Saclay. En termes de financement, vous allez plutôt faire du financement récurrent avec si vous voulez, orienté vers l'exploration. Et plutôt du financement par le groupe, et du coup un rattachement des laboratoires de R&D au groupe. Si vous voulez faire de l'exploitation, bah, vous allez plutôt faire valider les projets, y compris par des managers non spécialistes de R&D, y compris par le marketing, les dirigeants des business units, hein, et donc plutôt rattacher vos centres de R&D aux business units. Et puis, en termes de gestion des carrières des chercheurs, bah, si vous avez une orientation majoritairement exploration, bah, vous avez avant tout besoin d'avoir les meilleurs experts des domaines en question, les plus en pointe. Donc, évidemment, vous n'allez pas leur faire passer après 4 ans en qualité et 3 ans en marketing, parce qu'ils vont avoir décroché au niveau de leur expertise scientifique. Et donc, bah, les personnes, dans l'ensemble, font toute leur carrière en R&D. Et à l'inverse, Si vous voulez être orienté exploitation, bah, l'un des avantages, c'est que vous pouvez avoir comme ça des ingénieurs, des scientifiques qui commencent en R&D, qui vont ensuite faire, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de qualité, un peu de production, un peu de marketing, éventuellement revenir ensuite en R&D, non plus comme experts, parce qu'ils ont un peu, enfin quand même comme personnes qui connaissent bien, malgré tout, la science et la technologie qu'il y a derrière les produits, et qui connaissent bien les logiques et les enjeux des autres départements, donc qui vont faciliter le dialogue et qui vont venir plutôt comme cadre dans la R&D, c'est-à-dire ils vont plus être chercheurs, mais ils vont être à des postes d'encadrement, responsables de programme, responsables de services, etc. Donc vous voyez, alors évidemment, entre les deux extrêmes, bah, quand vous avez beaucoup de moyens, vous allez avoir des entreprises qui vont par exemple avoir un laboratoire central et des petites unités de R&D, hein, puisque la partie porte sur Renault. Bah, Renault a un grand laboratoire, alors pourtant, pour le coup, orienté exploitation, hein, comme quoi c'est des tendances, hein, ce que j'indique ici. Mais le technocentre, avec ses plus de 10 000 salariés à Guyancourt, mais a quand même localisé des petits laboratoires, par exemple en Inde, etc. Donc des petits laboratoires, bah, le laboratoire indien, il est plutôt là pour adapter les produits aux pays émergents. Et ils ont aussi un petit laboratoire dans la Silicon Valley. Alors là, c'est plutôt pour se connecter aux compétences scientifiques et technologiques, notamment bah, électronique, informatique et green tech. Et puis, bah, à certains moments, vous pouvez sentir que votre entreprise, elle penche trop d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a eu souvent, dans les années 70, par exemple, bah, on n'hésitait pas à investir à long terme parce que, bah, en tout cas avant la crise des chocs pétroliers, et puis bah, avec les premières crises, le ralentissement de la croissance, etc., les entreprises ont voulu du coup se sont tournées plus vers l'exploitation et on a vu justement bah, des unités de R&D qui ont été rattachées aux business units plutôt qu'aux groupes avec de plus en plus de financement sur projet, etc. Et après, certains groupes se sont aperçus que bah, le curseur avait été trop loin de l'autre côté et qu'il ne faisait finalement pratiquement plus que de l'innovation incrémentale. Hein, il y a bah, maintenant, ça commence à faire quelques années, mais ceci dit, je parle bien d'une période récente, hein, mais c'était justement la période où je m'occupais, donc c'était forcément avant 2020. Mais vous voyez, dans la période autour de 2018, bah, parmi les entreprises qu'on avait rencontrées, il y avait Safran. Et chez Safran, on nous avait indiqué que typiquement, l'essentiel des chercheurs avant étaient rattachés au business unit, qu'ils s'étaient aperçus qu'ils ne faisaient plus de grands sauts majeurs, etc. Et que donc, eh bien, ils avaient rattaché, alors je ne sais plus, c'est les deux tiers ou 60%, enfin l'ordre de grandeur, c'était ça. Des chercheurs à nouveau au corporate, comme on dit en bon français, et notamment qui les avaient en partie, pas entièrement, mais rapatriés sur leur unité principale de R&D, qui n'est pas la seule pour autant, hein, mais qui se trouve bah, pas loin du plateau de Saclay non plus. Donc on voit que la logique, c'est, ah, on a été trop dans l'exploitation, l'incrémental, etc. Hop! On remet un peu plus le curseur vers l'autre côté. Ça ne veut pas dire que, ah, ils ont toujours laissé du coup un tiers de chercheurs dans les business units. Toute la R&D n'est pas du coup localisée près du plateau de Saclay, etc. Donc c'est pas du tout tout rien. Après évidemment, quand vous êtes une plus petite entreprise, vous avez un peu moins comment dire, de latitude pour pouvoir faire l'un et l'autre en même temps. Vous avez moins de possibilités de dosage fin, on va dire. Comme j'avais senti que vous étiez impatient de faire des sujets, tout ça, je me suis dit, il faut que j'accélère le rythme. Je ne voudrais pas qu'il soit tout comment frustré de. Et donc, je propose un deuxième sujet assez simple, enfin assez simple, pas forcément à faire, mais à exprimer, à formuler, hein, c'est tout simplement analyser l'organisation de la R&D d'une entreprise. Alors, souvent, j'essaye plutôt, parce que bah, c'est l'orientation du master, hein, d'orienter les travaux, notamment pas mal vers les startups. Là, dans le cas de l'organisation de la R&D, les startups ne communiquent pas forcément là-dessus. Ça peut tout à fait, et ce sera probablement majoritairement pour ceux qui choisiront de faire ce sujet-là, ce sera probablement majoritairement des grandes entreprises. Ça pose pas de souci parce que c'est vrai que voilà, ce sont les grandes entreprises qui vont communiquer dans leur rapport annuel, sur leur site web, etc., sur où ils ont mis leur laboratoire de recherche, combien ils ont de chercheurs dans tel ou tel pays, qui vont expliquer un peu bah, pourquoi ils ont installé un laboratoire ici, un autre là. Voilà, du coup, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera plutôt des grandes entreprises. Pour ce sujet-là, ça, c'est probablement plus facile. Alors, je rappelle du coup au passage hein, que ces sujets, j'en donnerai probablement 6. En tout cas, les autres années, c'était 6. Après, si j'ai 7 bonnes idées, je mettrai un centième. Hein, mais, et que vous devez en faire au moins 3. Hein, si vous n'en faites pas 3, bah, celui qui manque, ce sera un zéro, quoi. Et que donc vous avez un peu de choix, hein, c'est-à-dire si vraiment un sujet vous inspire pas du tout, bah, vous pouvez passer, voilà. Donc voilà, et j'en profite aussi parce que un de vos camarades avec qui j'ai un rendez-vous individuel m'a posé la question. J'attends quelques pages, hein, dans des sujets comme ça. Ça peut être, alors ça dépend des sujets, hein, là, comme il faut quand même décrire, ce sera peut-être 5-6 pages, mais dans d'autres sujets, des fois, s'il y a 3 ou 4 pages, ça peut très largement suffire pour faire une bonne analyse. Dans d'autres, ce sera peut-être 6 ou 7. Mais vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est plutôt voilà, autour de 4-5 pages, sachant que c'est le autour est assez large. Hein, mais ce n'est pas une norme que je suis en train de vous donner. C'est pour que vous ayez une petite idée, que vous ne fassiez pas 10 lignes. Parce que là, c'est que vous n'aurez pas assez creusé et que vous ne fassiez pas non plus des mini-mémoires de 15 à 20 pages. Alors, je ne sanctionne pas, j'ai pas mis de, je mets pas de maximum. Donc, mais enfin, c'est surtout que ça vous demanderait beaucoup de travail pour, voilà, plus de travail que ce qui est attendu, en fait. Donc voilà, vous avez votre deuxième sujet. Les autres arriveront au fur et à mesure. Donc, encore une fois, quand on aborde le sujet. Dans le cours.
Monsieur,
Oui.
excusez-moi de vous interrompre. Pour ce second sujet, qu'est-ce que vous attendez de nous dans l'analyse? Parce que c'est assez vaste, donc on peut tout aussi bien faire 3 pages que 20 pages en fait. Du coup, quelles sont les notions par exemple que vous attendez qu'on traite déjà sur ce qu'il y a dans le cours, mais enfin un petit peu plus précisément parce que ça demande beaucoup de recherche du coup.
Alors, beaucoup, je pense que ça demande un peu de recherche, mais je pense qu'on trouve quand même relativement facilement, encore une fois pour les grands groupes, hein, ce type d'informations sur où ils sont localisés, etc. Et à partir de là, l'idée, et ce sera là le cœur de l'évaluation, ce sera d'essayer d'expliquer pourquoi, bah, par exemple, qu'est-ce qui peut expliquer que ils ont 12 laboratoires plutôt qu'un seul qui serait un grand laboratoire? Qu'est-ce qui peut expliquer que bah, il semble y avoir une organisation un peu en étoile avec un grand laboratoire central et puis des petits laboratoires, mais qui en l'occurrence sont vraiment spécialisés sur des domaines très pointus. Qu'est-ce qui peut expliquer une organisation comme celle-là? Et donc là, effectivement, vous avez des éléments dans le cours, type exploration-exploitation, type. Là, des fois, ça peut être aussi des choses sur lesquelles je suis passé un peu vite, mais sur lesquelles j'ai quand même donné la piste et que vous vous approfondissez, qui est bah, par exemple la présence d'un cluster technologique et le fait que c'est là qu'il y a les meilleurs chercheurs. Voilà, c'est vrai que si vous voulez être au cœur des avancées sur l'intelligence artificielle, Avoir un petit labo dans la Silicon Valley, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, en combinant ce qui est dit dans le cours, ce que vous pouvez lire en complément, hein, bien sûr, sur les localisations et l'organisation de la R&D, ce que disent les entreprises, puisqu'elles-mêmes, elles vous donnent une partie des explications. Et puis, bah, vous pouvez faire des hypothèses, hein, parfois. C'est-à-dire, vous pouvez dire, on peut supposer, compte tenu de cet élément-là, de cet élément-là, de cet élément-là, on peut supposer que c'est pour cette raison-là qu'ils sont organisés de cette façon-là, ou qu'ils sont localisés ici, ou.
Ok, merci. Et dernière question, c'est là vous avez, enfin, c'est écrit qu'on peut choisir l'entreprise de notre choix, mais vu qu'on est dans le cadre du cours de management stratégique de l'innovation, est-ce qu'il vaudrait mieux choisir une entreprise dans la tech, dans l'innovation, ou si par exemple on part sur une entreprise de cosmétiques, enfin est-ce que c'est tout, enfin est-ce que ça a
Bah,
une
y a des entreprises de cosmétiques qui innovent. Alors c'est vrai que à la fois parce que, comme je vous l'avais expliqué, hein, qui peut le plus peut le moins, et à la fois sans doute par goût personnel, il ne faut pas le nier, je suis très le cours est très centré sur effectivement des secteurs high-tech, électronique, informatique. Ça ne veut pas dire du tout que moi je vous limite à ces sujets-là. Hein. C'est management stratégique de l'innovation. Donc ça peut tout à fait être de l'innovation. Quand on parle d'innovation, ça peut tout à fait être de l'innovation non technologique, de l'innovation de service, etc. Hein. Donc quand vous faites vos choix, vous pouvez tout à fait choisir ce type d'entreprise-là. Et alors là, comme il s'agit de R&D, là, ça va être plus compliqué de faire du non technologique, évidemment. Mais ceci dit, bah, vous avez de la R&D en cosmétique, hein, et donc vous pouvez tout à fait choisir l'organisation de la R&D d'une grande entreprise de cosmétiques.
Ok, ça marche. Merci beaucoup.
Notamment, il y a plein de labos chez L'Oréal. Ça, c'est un cas assez intéressant sur l'organisation de la R&D L'Oréal. Alors, est-ce que je continue maintenant, sachant que ouais, j'ai déjà dépassé un peu, hein. Donc, on va en rester là pour ce soir. Il ne faut pas que je prenne l'habitude de toujours dépasser. La semaine prochaine, on parlera d'Open Innovation, et c'est ce qui nous amènera vers Renault. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, pour l'instant, on a l'organisation interne de la R&D. On s'arrête là et après, on verra comment elle interagit avec l'extérieur. Voilà. Je vais arrêter.
Monsieur, j'avais
Pardon.
juste une petite question.
Oui.